L'affaire Gilles Deleuze. Chapitre 5, épisode 17. À 5h17, un groupe d'adolescents en quête de sensations s'était également échoué dans le cimetière et les avait réveillés. Les bavardages alcoolisés avaient d'abord ondulé dans les airs, indistincts, puis les corps des deux jeunes filles s'étaient relevés brutalement. Avant de s'assoupir sur de la terre mouillée, elles avaient eu un débat houleux au sujet des relations amoureuses, car l'Américain avait émergé du fond de la mémoire d'Emma. À l'hilarité avait suivi la tristesse, puis à la tristesse avait suivi l'hilarité. Leur cœur avait été brisé. Elles aimeraient pourtant, dorénavant et pour toujours. Ne pouvait-on aimer adéquatement que lorsqu'on avait été écrasé par des rouleaux impitoyables ? Au réveil, Emma avait immédiatement repris les choses en main. Elle avait découvert une porte cachée qui donnait immédiatement sur le dehors. On pouvait facilement se glisser par cette issue, tout en restant debout. Elles étaient si loin de chez elles. Elles prirent des vélos et se mirent à pédaler. Le vent soufflait dans la robe déchirée d'Emma, et Marguerite, qui la devançait, tanguait sur sa selle. Emma sentait qu'il fallait bientôt en terminer, que c'était la fin, que c'était déjà arrivé. Après tout, que lui restait-il à dire ? Elle pensait à Deleuze et à son œuvre, à sa démentielle entreprise, à la beauté de sa pensée et à toute la vie qu'il avait préféré voir déferler. N'avait-il pas, lui-même, à la toute fin, réussi à prendre ce qui le concernait ? Parvenir au creux de l'implication pour dire enfin « au revoir, au revoir ». Ce qui le concernait, c'était la pensée pure. Sa pensée n'avait rien d'asséché ou de desséché. Il lui fallait une pensée qui coulait, qui frappait et qui donnait l'envie de vivre dans le ressac. Mais on avait beau surfer sur la pensée, on pouvait rester maître de ses distinctions, ses mouvements de rame ténus, mais indispensables pour avancer, ses mouvements de bassin grâce auxquels on s'orientait. Deleuze avait mis au point des procédés pour nous faire dériver loin des rivages du donné, sans risquer de nous perdre en mer. Il ne fallait pas avoir honte de la métaphysique ou croire qu'elle n'existait pas. Elle était partout. Elle imbibait nos existences et ponctuait nos actions. Elle était la crête des idées qui soutenaient nos entreprises. La métaphysique ne pouvait qu'exister. Mais pour autant, la physique ne devait pas être évacuée. Et inversement. Les deux disciplines se tenaient à côté, comme des tournures de pensée hétérogènes vers lesquelles différentes âmes d'enfants décideraient de se tourner. L'âme avait seulement plusieurs inclinations, différentes manières de se sentir emportée. La pensée n'accélérait pas de la même façon en fonction des perplexités rencontrées. Il y avait des mathématiciens, mais il y avait aussi des philosophes. Les deux se tenaient côte à côte, à distance, s'adressant des idées du fond de leurs perplexités respectives. Peut-être que le livre « Qu'est-ce que la philosophie ?» racontait cela. L'histoire de la dissociation entre la science et la métaphysique. L'exposé de leurs manières différentes de problématiser. Comme toujours, il ne fallait pas que l'une se fasse dévorer par l'autre. Toutes les lectures d'Emma et les ouvrages qu'elle avait parcourus pendant un mois formèrent alors une écume cristalline.
Les scientifiques et les philosophes se rencontrent autour de perplexités. Mais leurs types de perplications se distinguent. Ils ne se sentent pas forcément concernés par les mêmes choses. Un scientifique rencontre des variables comme signes dans le monde. Ce sont les cryptogrammes qui l'intéressent, comme manière de dépotentialiser les environs pour en dire l'hypercomplication et en montrer le fonctionnement. Leur singularité de pensée est donc celle de la fonction. Ils sont préposés aux fonctions comme manière de transposer. C'est leur vecteur d'orientation qui les définit comme personnage, observateur partiel. Ce qu'ils présupposent au fond, c'est la juxtaposition en pensée d'une coordination précise de propositions et de ce qui se propose. Le philosophe, lui, rencontre des variations de puissance, pour dire les complications du monde au sein de singuliers concepts. son orientation et l'interposition qui le définit comme personnage conceptuel, résistant aux données en passe de mal tourner. Il n'a pour horizon que la superposition d'une reposition de propos. Un philosophe ne cesse de digresser.
Elle s'arrêta subitement et cria à Marguerite.
« Attends-moi !»